Le lion raconte ce qui suit par Hjalmar Bergman. Je suis né en Cyrénaïque le 10 août 1914, l'année du grand malheur. Mon père était un lion grand, fort et brave, le plus méchant et le plus cruel qu'on peut voir en ce temps-là. Un singe de ma connaissance a osé prétendre que mon père était bon et doux. Je repousse cette assertion avec un rugissement indigné. Dès ma venue au monde, ma mère eut l'obligeance de m'allaiter. Je lui en saurai gré toute ma vie. Les mois durant lesquels j'eus l'avantage de boire son lait et d'être l'objet de ses soins restent dans mon souvenir comme les plus heureux peut-être de mon existence. Quand je fus sevré, je quittai ma mère. Mon respect pour elle m'interdisait de l'importuner inutilement. Du reste, elle me donnait des coups de patte extrêmement durs. Alors commença une nouvelle vie. Je rôdais aux alentours en me promenant dans des déserts de sable et dans des lieux plus attrayants. Parfois, des antilopes approchaient pour jouer avec moi. Je dois avouer qu'à l'exception des lièvres, je ne connais pas de créature plus séduisante que les antilopes. Elles sont douces et avenantes. Un lion n'a jamais à craindre un acte hostile de la part de ces animaux qui, du reste, sont rapides à la course, ce qui me permet d'exercer mes muscles. Ce sont des êtres d'un gracieux aspect et finalement facile à digérer. Permettez-moi, puisque pour une fois j'ai pris la parole, d'exprimer mes hommages et mon affection à la tribu des antilopes. Elles tolèrent qu'on les dévore de bon appétit et elles acceptent également de se laisser aimer. Ainsi que je viens de le dire, je rôdais aux environs et la vie ne me souriait pas toujours. Il pouvait se passer des semaines entières, sans qu'une seule antilope ni même un petit lièvre eussent le moindre souci de jouer en ma compagnie. Il en résultait bien des heures lugubres. Avec un faible rugissement, je me dis « Est-il possible que parmi les antilopes et les lièvres, on se méfie de moi ?» Cela me paraît invraisemblable. Pourquoi ces animaux fuient-ils le lion, leur vieil ami ? Un ou deux lièvres répondirent à mon appel en recommençant le jeu, mais mon estomac criait toujours. Je m'étendis sur le sable en me frottant durement le ventre contre la terre pour ne pas sentir les douleurs du jeûne. Dans une de ces occasions, il m'arriva de lever les regards vers le ciel. Là-haut, je découvris la lune. A-t-on jamais vu chose plus belle que la pleine lune durant la première nuit ? J'émis alors un sonore rugissement. Allah, Allah, Mohamed al-Rachid, Allah, assurément tu as créé des mondes plus beaux que celui-ci. Pourquoi ne puis-je arriver jusqu'à la lune ? Existe-t-il des raisons qui légitiment cette situation ? S'il n'y en a pas, laisse-moi atteindre l'astre des nuits. Car ici, je crève de faim et suis réduit à m'étendre et me frotter le ventre contre la terre afin de ne pas souffrir de l'abstinence. Mon rugissement exprima tout cela et il me sembla entendre dans les airs une voix qui me répondait à travers les nuages. « Tu auras la permission d'arriver à la lune, lion, si tu te conduis bien sur la terre pendant quelques années. » Jamais je n'ai cessé de penser respectueusement à cette voix. Je l'honore autant que le souvenir de ma mère qui m'allaitait et me battait. Après avoir contemplé la lune, j'aperçus une antilope gentille et douce qui s'approchait en manifestant le désir de jouer. Je m'élançai. Une fois, en parcourant le désert, je découvris une source cristalline. La soif a toujours été une de mes souffrances les plus cruelles. Je bus à pleine gueule, et ce faisant, j'aperçus mon image dans l'eau. Je vis que j'étais fort. Je rugis sans violence et me dis « Que ne se trouve-t-il par hasard une lionne aux alentours ?» À peine avais-je exprimé ce souhait que quatre lionnes sortirent d'un bouquet de palmiers en se léchant doucement le museau et en remuant coquettement la queue. Mon cœur faillit éclater d'allégresse. Quatre, Allah, Allah, te voici presque trop généreux, pensai-je, mais assurément je ferai de mon mieux. Jugez donc, ô peuple, de ma frayeur lorsque je m'approchai. Elles étaient toutes de l'âge de ma mère. Je m'inclinai, effrayé. Elle continua à se lécher complaisamment le museau et moi, pénétré de respect pour la vieillesse, je fis un rapide demi-tour et me précipitai dans l'océan de sable. « Plutôt mourir, » me dis-je. Les quatre lionnes me poursuivirent quelque temps, obéissant, selon toute apparence, au généreux désir de compléter mon éducation. Mais l'idée de les déranger ne me souriait pas. Je continuai de courir. Mes efforts ne furent pas sans récompense. Quelque temps après, je trouvai dans une oasis une jeune lionne. Nous nous battîmes courageusement et nous vécûmes, pour m'exprimer comme les hommes, unis par les liens d'un heureux mariage. Je l'aimais d'un tendre amour. Je n'ai jamais ressenti autant d'affection que pour ma chère mère, qui, Allah soit loué, est morte. Je dis « Allah soit loué », car si elle était encore vivante, dans quel état se trouverait-elle? Que chacun sache mourir à l'heure fixée. Un jour, au cours de notre union fortunée, je crus distinguer six petits lièvres. Je me précipitai pour les saluer d'un coup de patte. « Arrête, malheureux !» me régit alors ma compagne. « Ce sont tes enfants !» Ces six petits que j'ai mis bas il y a quelques jours et que je nourris de mon lait. Je demeurai en vérité confus au point d'abandonner ma femme et mes enfants. Une telle erreur, prendre mes propres enfants pour des lièvres, ne devait pas se renouveler. Du reste, ma femme n'avait plus besoin de moi. Il se présenta aussi l'occasion de rencontrer d'autres jeunes lionnes. Nous prîmes plaisir à jouer ensemble, mais à la suite de ces ébats, je me trouvai étendu ensanglanté sur le sable. À ce moment, je découvris de nouveaux lastres nocturnes que j'avais oubliés. Je suis honteux de le confesser, et je m'écriai « Allah, souviens-toi de moi, il me tarde de quitter la terre. » Je n'ai pas obtenu de réponse, mais j'espère toujours arriver à la lune. Bientôt après, se produisit le grand événement de ma vie. Je rencontrai l'homme, ou du moins je rencontrai d'abord l'Américain, un être qui ne se soucie pas de se voir confondu avec l'homme. C'est pour cette raison que j'établis cette distinction. Je n'ai jamais connu de bipède plus affectueux à l'égard des lions. Il avait choisi comme devise « à chaque lion sa cage ». Pour atteindre ce but, il avait construit dans le désert une cage couverte de feuilles de palmier. Une cuisse de cheval était pendue à l'intérieur. Je n'ai jamais aimé la viande de cheval, mais dans le désert on a souvent faim. Et c'est pourquoi je me précipitai dans la cage. La grille se ferma, bien entendu. Le tout constituait une manifestation de l'activité américaine ayant pour objet de protéger les animaux. Cet épisode, si peu important qu'il puisse paraître, changea ma vie. Après avoir été un simple lion, je devins un lion civilisé. L'on m'enseigna à sauter à travers des cerceaux. L'honneur en revint non seulement à moi, mais encore à l'Américain et à mon dompteur allemand. Cependant, peut-être une toute petite part de cette gloire m'appartient-elle en propre, puisque je suis devenu un lion civilisé. J'appris bientôt à aimer ma cage. C'est là que j'ai ma nourriture. Bien entendu, de la viande de cheval. Mes charmantes antilopes ne viennent plus jouer avec moi. Je trouve également dans ma cage un sommeil tranquille, et on y introduit parfois une lionne. J'aimerais faire une observation à ce sujet. La visiteuse pourrait être plus belle. Enfin, je suis content. Je ne suis pas sans travail, ayant mon petit boulot et mon existence assurée. J'ai mon dompteur qui me caresse de son fouet. Malheureusement, il s'est avisé d'inventer un numéro pour lequel je n'éprouve aucune sympathie. Il me fait sauter à travers les flammes. C'est pénible et d'autre part, j'ai peur que le feu ne détruise ma belle crinière. Cette épreuve me tourmente. Les honorables spectateurs sont sans nul doute sensibles à mes inquiétudes. Lorsque, poussé amicalement par mon dompteur, je saute au-dessus de la fournaise. Le public est alors saisi d'une vive compassion, qu'il cherche à diminuer en entrechoquant les pattes de devant. Une fois, il m'est arrivé d'embrasser mon dompteur. Le public, se formalisant de cette marque d'affection, est intervenu et on a emporté l'âme. Je ne l'ai jamais revu. Ce qui m'a rempli de mélancolie. Alors une idée m'est venue. J'ai essayé de dissiper cette tristesse en applaudissant, moi aussi. Le soir tombé, quand il fait jour, on est embarrassé pour réaliser de semblables projets. Je me dressais sur mon arrière-train et je commençais à choquer l'une contre l'autre mes pattes de devant. Bien que j'eusse mis une ardeur extrême à exécuter ce geste, mon état d'âme ne s'en trouva pas amélioré. Je persistais à regretter mon pauvre dompteur, que je venais d'embrasser par suite d'un simple hasard. Et maintenant je passe au côté tragique de ma vie. Des épouses, j'en ai eu plusieurs, ainsi que des petits. J'ai tout supporté avec patience. Les applaudissements du public ont retenti à mes oreilles et devant ma cage, j'ai dû écouter de vieilles dames articuler des propos de ce genre. Le lion veut-il du pain d'épices ? Bref, j'ai eu à subir tout ce que je trouvais désagréable, et je l'ai enduré avec la plus grande patience, car je sais qu'il en faut. Mais écoutez la suite. Dans sa stupidité, mon gardien oublia de fermer la grille de la cage, et moi, l'imbécile, je m'en allais me promener comme le premier crétin venu. Où cela se passait-il ? Je ne me le rappelle pas. J'ai toujours éprouvé de la difficulté à me souvenir de pareilles choses. Au début, tout alla bien. Je rencontrai un cheval arrêté devant une charrette chargée de pots à lait. Je flairai le sage animal en me demandant si je devais jouer avec lui. Comme l'antilope, le cheval est rarement méchant en présence du lion. Mais je trouvais cette rose trop maigre et je renonçai à la récréation. Plus loin, je croisai deux religieuses. Je me frottai amicalement contre elles, qui n'y prirent pas garde, car tout en marchant, elles lisaient dans un livre saint où il était question de la vie des martyrs déchirés par les lions. Je présentai mes hommages à ces saintes femmes et continuai ma route. Peu après, je me trouvai en face d'un homme armé d'une trique en fer qu'il brandit et dont il m'asséna un coup sur l'échine. Frémissant d'allégresse, je pensais « Voilà mon dompteur qui veut me ramener à ma cage. » Dans ma joie, j'embrassai l'individu. Mais ce n'était pas mon dompteur et le gaillard à la trique resta couché sans mouvement sur la chaussée. Tous les hommes ne sont pas des dompteurs. Malheureux, je poursuivis ma route. Si ma promenade n'avait pas coïncidé avec l'heure du dîner, et si les gens n'avaient en conséquence à peu près déserté les rues, j'aurais certainement perdu l'esprit. Imaginez au lion de Cyrénaïque que vous déambulez à travers une ville pleine de bourreaux. Je crois bien que vous n'auriez pas la queue en panache. Cependant, je ne voyais pas beaucoup de monde et les personnes que je rencontrais me témoignaient une certaine déférence. Elles me laissaient tranquille, si je peux dire. Mais je fus saisi d'une envie de plus en plus violente de retrouver ma vieille cage avec sa molle couche de sueur de bois, son aimable fouet de peau d'hippopotame et ses morceaux de viande. Il me sembla que ma tête s'égarait. Je me précipitai dans une maison dont je montai l'escalier. J'entrai dans une chambre. Et dans cette chambre, petite et quadrangulaire comme ma chère cage, je me trouvai en présence du plus grand malheur de ma vie. Il se manifesta sous la forme d'un petit enfant qui m'aperçut, poussa un cri « Maman, au secours !» Je compris immédiatement que l'enfant croyait, pour une raison mystérieuse, qu'il devait avoir peur de moi. Je m'approchai du marmot en me léchant le museau et en remuant la queue. Ce langage international par signes, qui exprime des sentiments amicaux, devait être connu de tout le monde. Mais le bambin était très petit et trop peu instruit pour comprendre. Il ne fit que crier. « Quand les bébés sont malheureux et pleurent, il faut les amuser », estimai-je alors. Et je me souvins de ces quelques semaines de mon premier mariage si vite passé, pendant lesquelles j'amusais mes rejetons en les faisant galoper après la houppe de mon appendice caudal, qui était d'ailleurs splendide. J'usais ici du même stratagème sans obtenir cependant de résultats appréciables. Bien entendu, le mioche ne put résister à la tentation de saisir la magnifique houppe, mais il la lâcha immédiatement pour crier de plus belle. Ses cris ininterrompus finirent par m'ôter le contrôle de mes nerfs. Je me mis à courir autour de la petite chambre au centre de laquelle se trouvait l'enfant qui ne cessait de pleurer. Je me conduisais ainsi d'une manière que mes parents de la Cyrénaïque eussent considéré comme peu conforme à la bonne éducation. Dressé sur mes pattes de derrière, je contournais en les frôlant les murs de la pièce afin d'éviter le petit. La maîtresse de la maison, qui était aussi la maman du bébé, commence alors à m'adresser les reproches les plus cinglants. Si les femmes savaient seulement combien la douceur leur réussit mieux que la violence. Nous, les lions, nous avons l'oreille sensible et les cris nous irritent le système nerveux. Ma situation devenait de plus en plus pénible et je faillis faire écrouler la maison en cherchant la sortie. Alors se présenta, Allah en soit loué à jamais, un homme, peut-être le père, qui me tira un coup de revolver. Évidemment, le nouveau venu comprenait la difficulté de ma situation et voulait, tout en m'indiquant la porte, essayer de calmer mes nerfs surexcités. Il avait le sens de la solidarité qui lie les différents êtres, à quelque espèce qu'ils appartiennent. Hommes et lions deviennent souvent des alliés contre les femmes et les enfants criards. Par malheur, l'individu disposait seulement de 6 balles, et je n'en reçus que 3 dans le train de derrière. La perte de sang que je souhaitais ne se produisit pas. mais je conservais toujours de la reconnaissance pour le père de l'horrible enfant, pour cet homme qui est venu à mon aide. Il ne réussit pas pourtant à me montrer la sortie de la cage, de la chambre, veux-je dire. Peu après, cependant, finit par arriver mon cher dompteur. Il jeta un lacet autour de mon cou et, pour me témoigner son affection dans ce moment pénible, il constata « Ce lion est un des plus sauvages qui ait jamais existé. » Ces mots me rendirent mon courage. Je suivis l'homme qui me ramenait à ma demeure grillée et tout en dressant la queue, je pensais « Ah, bonnes gens, et vous, surtout, petits enfants, gardez-vous de moi, je suis redoutable. » Il est doux de se sentir redoutable quand on est lion. Me voici donc revenu dans ma cage, ma chère cage. La couche de sciure de bois est délicieuse, la nourriture de temps en temps moins délicieuse. Les petites antilopes qui avançaient si gentiment pour jouer avec moi étaient plus favorables à ma digestion, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais tout cela a bien peu d'importance. Le principal, c'est de se trouver à son aise, d'avoir sa nourriture, son cher dompteur, sa cage et ses rêves, où l'on voit les astres nocturnes qui contiennent assurément des mondes meilleurs que le nôtre. Bonnes gens, il me tarde de me reposer. Je vous ai relaté un peu de ma vie. Laissez-moi tranquille à présent, pour la simple raison que je veux dormir. Et gardez-vous, ô visiteurs, de troubler mon sommeil, car même quand je dors, je reste un lion. » Ainsi s'achève « Le lion raconte ce qui suit » par Hjalmar Bergman.